tous les samedis à 9h et en rediffusion les lundis à 22h, retrouvez Réussir sa vie, la nouvelle émission de Choc FM 105.1. Guy Lucaille reçoit chaque semaine un nouvel invité francophone ou francophile pour parler de ses expériences et de ses choix autour de chansons sélectionnées par l'invité. Réussir sa vie, tous les samedis à 9h et en rediffusion les lundis à 22h sur Choc FM 105.1.
La musique d'abord, 100% Toronto. La musique d'abord. 105.1, Choc FM.
Bonjour chers auditeurs, de retour pour une nouvelle émission de Réussir sa vie. Au micro, c'est Guy. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir Hosni Zawali. J'espère que j'ai bien prononcé ça.
Non, c'est ça.
Tout le monde te connaît comme Hosni n'importe comment. Alors, qui es-tu?
Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que mes parents, ils ont pas fait facile avec en mettant 4 voyelles à mon nom de famille. C'est Z-A-O-U-A-L-I. Ils auraient pu mettre un W, mais ils ont fait un peu plus compliqué en arrivant en France. Je suis un petit peu comme un citoyen du monde avec 3 nationalités. Une nationalité française, européenne, une nationalité tunisienne, donc africaine, et une nationalité canadienne, donc d'Amérique du Nord. La meilleure manière peut-être de me décrire, ce serait un petit peu ça, citoyen du monde, sans aucune réelle allégeance à aucun pays, aucune religion, bien que je les accepte toutes, et voilà.
Donc tu es un citoyen de cette planète.
C'est ça, exactement. J'essaie d'être un bon humain.
Oui, mais tout ce que tu fais reflète exactement cette pensée.
C'est gentil.
Ben, c'est normal, écoute, je le pense sincèrement. Comme première chanson, tu as choisi MHD, Afrotrap.
Oui, effectivement. C'est une bonne chanson. En fait, disons que je marchais à Montréal. J'étais tout simplement en train de me promener au Francofolies. Et là, je vois un attroupement en fait de monde autour d'une scène, et puis je vois ces gamins qui me rappellent beaucoup en fait à quoi nous on ressemblait lorsqu'on était enfant en France. Et ces gamins montent sur scène, et puis là, ils ont complètement mis le feu en fait à la scène avec des chansons qui étaient vraiment vraiment très intéressante. Déjà, écoutez, vous allez voir. Mais c'était quand même une grosse découverte. Donc, j'ai vu que ces gamins étaient de Paris et ils s'appellent MHD. Ils me rappellent un petit peu ce que mon enfance, un petit peu. Donc, cette manière d'être coincé entre la France et l'Afrique. Donc, eux, ils parlent beaucoup de ça dans leurs chansons. Mais aussi, ils parlent beaucoup de leur environnement, à savoir les quartiers ou les banlieues. Et c'est là où moi j'ai passé 25 ans de ma vie également, donc ça fait partie de qui je suis. Voilà, voilà.
Alors écoutons attentivement Afrotrap. À tout de suite.
Vous reconnaissez les bâtards qui partent que par intérêt. Enfoiré qui pense une drogue, apprends que MHD il est tout terrain. Qui veut la bagarre? En plus t'as tenu mon gars pour ton combat. On chipote le pas, tu payes en test. Le robot qui va gérer mes peignements. Et MHD ça tu prends les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hein mon ami, c'est bon l'enfant à qui fait bouger ta vie. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Mali. Faut que les jaloux, j'y m'en bavis. À 11h, je vis ça à Bordeaux. Gâté, appétit, quand je marche la boule à du Brésil. Imbécile, plus par loin d'ici, j'oublie les galères et les suicides. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les couilles si je te plais pas. Me méprise mes gars sont mes playbacks. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moula. Ouais, je débec, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Gros, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Après, tu la connais pas la porte claire. On se suit l'air, que c'est moi qui le brasse. Tu passes, tu parles, on sait que tu ne passes pas. J'ai plus de cellulaire quand la ligne reste restreinte. Ungaté, appétit, quand je veux marcher la moula du Brésil. Imbécile, je veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Ungaté, appétit, ungaté, appétit, appétit.
Ngati appétit, Ngati appétit, appétit. Ngati appétit, parce que par j'ai la boule à du Brésil. Imbécile, peu par loin d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Ngati appétit, Ngati appétit, appétit. Ngati appétit, Ngati appétit, appétit.
Avec mon invité aujourd'hui, Osni. Osni, qu'est-ce qui te tient occupé en ce moment ?
Oh là, il y a beaucoup de choses là, ce qui me tient occupé. Hein. Je t'avoue que autant au niveau professionnel, c'est énormément de travail avec avec l'année scolaire qui vient de commencer, autant de manière un peu plus macro, la situation des Syriens, la situation aux États-Unis, où on doit choisir entre la peste et le choléra. Je t'avoue que sans vouloir en fait sortir ma boule de cristal pour voir le futur. Les années Obama vont nous paraître bien loin très bientôt.
On va s'ennuyer. Hein?
oui, ça va être difficile.
Alors sur le plan professionnel, il y a des choses qui te préoccupent aussi.
Bah oui, effectivement, c'est toujours le cas entre cette dichotomie entre ce que l'on veut faire et ce que l'on arrive à faire, là où on a le pouvoir en fait de changer un petit peu la donne. Mon but au niveau professionnel, c'est pas forcément de devenir riche, mais c'est vrai que c'est d'investir dans l'humain et d'investir dans les enfants et dans les étudiants, parce que je pense que c'est là où on investit dans la planète. J'ai complètement perdu espoir dans les adultes. Hein, je pense que je vais pas travailler avec les adultes, je vais travailler qu'avec les enfants, parce que il leur faut un petit peu, il nous faut comme humain, hein, il nous faut peut-être 10 ans en fait de travail pour décomposer un petit peu ce lavage de cerveau dans lequel on a été baigné. Donc voilà pourquoi est-ce que je travaille beaucoup sur les enfants et essayer d'en faire en fait de bons humains, un petit peu comme une espèce d'effet viral. Ce que moi j'essaie de faire à ma petite échelle, si on le multiplie par 1000, imaginez s'il y a 1000 gamins qui dans 20 ans vont créer des fondations, vont créer des orphelinats, des écoles, des programmes d'éthique, des programmes pour devenir de meilleurs citoyens. Alors on a tout gagné. Si on multiplie ça par 1000, si on multiplie ça par 10 000, tout de suite ça a un impact sur l'environnement dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit, le pays dans lequel on vit. Malheureusement, les pays, les nations hérite de la jeunesse qu'il mérite. Si on continue en fait à nous saouler en fait avec des programmes qui ne mènent à rien, où l'éthique est mise de côté pour les remplacer avec des tables de multiplication, je dis pas que c'est pas important, mais je dis qu'il y a aujourd'hui des choses qui sont de plus en plus importantes, et le système que l'on a actuel, c'est un système qui est complètement révolu, qui date d'une époque où la planète n'était pas un village. Aujourd'hui, la planète est un village, on doit apprendre à vivre ensemble, et il n'y a rien qui nous prépare à ça.
Je crois que la génération millénium est pas encore contaminée, et elle a conscience de ça.
Oui, effectivement, et c'est pour ça que j'ai beaucoup espoir dans cette génération millénium.
Il y a des pays comme le Danemark, par exemple, qui ont compris que s'il n'y avait pas de pratique, l'éducation, ça ne servait pas à grand-chose.
C'est vrai. Le Danemark, la Suède, ils ont beaucoup, ils ont vraiment, ils appliquent un petit peu toute leur pensée, ou en tout cas, ils essayent, font des tests et ils mesurent. Le problème avec d'autres pays, malheureusement, et c'est vrai que le Canada, on tire pas mal notre épingle du jeu au niveau de l'éducation, on n'est pas mauvais. Mais il y a beaucoup trop d'autres pays où on a un système qui est archaïque, qui est tout simplement archaïque.
Alors, comme deuxième chanson, tu as choisi Manu Chao et Bongo Bong. Alors ça, c'est encore un reflet de la francophonie à Toronto.
Ouais, effectivement, Manu Chao, qui est, enfin, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il est très international dans pas mal de choses. Il chante en espagnol, il chante en anglais, il chante en arabe, il chante en français. Il a voyagé en Algérie, il a voyagé partout en Amérique centrale, en Amérique latine. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans les valeurs qu'il transmet dans ses chansons.
Alors allons-y avec Manu Chao. À tout de suite.
Mama was queen of the Mongo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the
bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come. Hear me when I come, baby. Hear me when I come.
Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour.
Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Thank you.
de retour avec Osni. Alors maintenant, on arrive au plat de résistance. Osni, quelle est ta définition du bonheur?
Ah, la définition du bonheur, pour moi... Alors déjà, le bonheur, en fait, c'est important de savoir ce que c'est pas. Alors, le bonheur, c'est pas l'absence du malheur. Il y a beaucoup trop de gens, en fait, qui se disent, bon, je suis en santé, j'ai pas mal, je suis pas malheureux, donc, par conséquent, je suis heureux. Et donc, c'est ça, le bonheur. Malheureusement, non, je crois pas que ce soit ça. Il y a d'autres personnes qui confondent le bonheur avec le plaisir, avec le plaisir. Plus de plaisir égale plus de bonheur. Malheureusement, ça aussi, en fait, c'est pas forcément vrai parce que ça mène à boire beaucoup trop d'alcool, à prendre beaucoup trop de drogue, ça mène à avoir une confusion totale entre le plaisir et le bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est un état un petit peu entre deux eaux. C'est un état qui nécessite pas nécessairement une excitation, mais qui nécessite pas nécessairement une dépression non plus. C'est un état de plénitude, une sérénité, une paix, avoir la paix, avoir un petit peu comme un esprit vide, pas tourmenté. Le tourment, l'agitation, pour moi, c'est la définition du malheur. On disait, le Dalai Lama disait justement que le malheur aujourd'hui, c'était un état d'urgence quasi permanent. Effectivement, quand on regarde nos sociétés, c'est un petit peu ça. On a toujours notre esprit qui est au moins à deux pas devant notre corps. On n'est jamais dans le moment présent. On est toujours agité. On est complètement esclave de ce cheval fou que l'on appelle l'esprit. On a vraiment beaucoup de mal à le contrôler. C'est vrai que la méditation est importante pour essayer de trouver le bonheur à l'intérieur de soi. Il faut jamais vraiment, à mon avis, hein, c'est une grosse erreur de croire que le bonheur peut venir de l'extérieur. Si j'avais une grande voiture, une meilleure voiture, si j'avais une plus grande maison, je serais heureux. Si j'habitais dans un autre pays, je serais heureux. Si j'avais cet emploi, je serais heureux. Ça marche pas. Le bonheur, c'est prendre cette situation telle qu'elle est et trouver le bonheur à l'intérieur de soi. Je pense qu'il y a là des outils pour que ça se fasse. Le bonheur, pour moi, est intimement relié à l'altruisme et à la compassion. Plus on aide, plus on se met dans la peau des autres, et plus facilement on arrive à dépoussiérer la surface et à trouver notre propre bonheur au sein de notre cœur. Donc un bel outil pour le bonheur, pour moi, c'est totalement l'altruisme et la compassion. C'est ce qui nous pousse beaucoup avec Voila Learning, d'aller en Afrique, d'aller en Haïti. C'est presque hypocrite et c'est presque égoïste, parce qu'on en retire beaucoup plus que c'est les enfants ghanéens que l'on aide, ou les enfants haïtiens, ou les enfants somaliens. C'est presque fou. Mais en y allant, on revient avec une espèce de plénitude où plus grand chose a réellement d'importance. Que les choses importantes ont de l'importance.
Je suis content que tu parles de l'altruisme, parce qu'on est d'accord que l'altruisme est à la base de toute religion. Alors j'ai une question, est-ce que ça veut dire que pour être heureux, il faut souscrire à une religion et s'y tenir?
Ah Guy, alors Guy, je vais te dire, je vais peut-être en fâcher certains en fait dans ton émission.
Hein. Non, mais écoute...
Je suis vraiment désolé, mais il est vrai qu'il n'est pas nécessaire de souscrire à une religion pour être heureux. Moi je suis né musulman, et j'ai vécu musulman, et je vis musulman, mais... Je t'avoue que je vois les religions beaucoup plus comme des syndicats qu'autre chose. Une religion, ça a été créé par l'homme, tout simplement. Ce n'est pas en fait le divin qui est arrivé pour organiser nos vies et nous faire prier 5 fois par jour ou nous faire aller à la messe le dimanche. C'est pas vrai. Ça a été créé par l'homme. Et puis, de toute façon, l'altruisme, parfois, n'a rien à voir avec la religion. La religion peut être un bel outil pour avoir des règles de vie, pour avoir une culture basée sur l'altruisme et sur l'entraide. C'est vrai, on le voit souvent, que ce soit dans l'islam, le judaïsme ou la chrétienté, ou même le shintoïsme, le taoïsme, il y a beaucoup de ça. Cependant, quand je vois en fait un petit peu ce que ces syndicats en fait créent autour de nous, c'est assez déplorable. Donc effectivement, la religion, disons que c'est un bon outil pour l'altruisme, mais il faut faire attention que cet outil ne se retourne pas contre nous. Il y a pas mal de si tu permets de continuer un petit peu là-dessus. Il y a pas mal de choses qui me tracassent un petit peu au niveau de la religion. Hein, je vais pas te mentir. Par exemple, ce fatalisme constant que l'on a dans la religion musulmane. Dans ma religion, je peux en parler. On l'avait en fait dans la chrétienté à un moment ou à un autre, mais ça a l'air que c'est passé dans la chrétienté. Mais dans la religion musulmane, on l'a toujours, ce fatalisme constant. Alors on parle beaucoup de El Mektoub, qui veut dire le destin. Inch'Allah. Est-ce que tu seras là demain à 2h? Inch'Allah. Si Dieu veut. Non, ça n'a rien à voir avec Allah, de quoi tu me parles.
Non.
Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu seras là demain? Mais ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, il y a une espèce de atmosphère ambiante de fatalité. Moi, personnellement, c'est un peu un pléonasme, moi, personnellement, mais personnellement, je pense que, quand on me dit Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, j'ai un problème avec ça. Hein, j'ai en fâché certains. Mais Dieu, le Tout-Puissant, s'il était Tout-Puissant, il pourrait éliminer tous les maux de notre planète, tous les maux de notre société. S'il était miséricordieux, eh bien, il épargnerait tous ces enfants syriens qui sont en train de se noyer. Si Dieu, il ne peut pas être miséricordieux et le Tout-Puissant à la fois. Dieu nous a créés, il a créé l'humain, avec cette capacité de créer et de réfléchir. Si tu veux que je pousse ma réflexion un peu plus loin, Dieu a besoin de nous pour être ses représentants sur la terre. Il nous a créés dans cette frontière entre la lumière et les ténèbres, pour faire reculer les ténèbres. En nous, dans l'humain, il y a les ténèbres et il y a la lumière. On le voit. On est capable en fait des plus grands actes de générosité, mais on est capable également de s'entretuer entre nous. Et c'est là où la responsabilité de l'homme, elle est là. Elle n'est pas dans une fatalité de dire « Oui, bah, c'est Dieu qui décide, tout mais pas... » Non, mais déjà, il faut arrêter de te prendre en fait pour ce que t'es pas. Dieu, il a bien autre chose à faire que de penser « Oula, attention, tu m'as pas prié 5 fois par jour la semaine dernière ? Eh bien, écoute, je vais te faire avoir un petit accident de voiture. » C'est complètement ridicule. C'est de l'anthropomorphisme pur et dur. Mais en plus de ça, c'est se prendre pour ce qu'on n'est pas. Si tu penses que tu as le pouvoir de changer ou d'avoir un impact sur les décisions de Dieu, c'est complètement ridicule. Et c'est encore une fois, c'est cet anthropomorphisme, on donne des qualités humaines à cette énergie que l'on appelle Dieu. Non, on a une responsabilité qui est énorme. Dieu a besoin de nous pour être ses représentants sur la planète. Et c'est tout, il faut qu'on prenne nos responsabilités devant nous, c'est tout.
Osni, je suis vraiment content que tu aies répondu à notre invitation. Et ce que je trouve formidable avec toi, et je te connais depuis plusieurs années, c'est qu'il n'y a pas de sujet tabou, on peut discuter de tout. Et c'est pour ça que je suis content de t'accueillir aujourd'hui.
Tout le plaisir est pour moi, crois-moi.
Mais écoute, je pense qu'il va falloir qu'on fasse plusieurs émissions ensemble. Comme prochaine chanson, tu as choisi « Au soleil » de Jennifer.
C'est ça. Ouais, alors cette chanson, j'étais en fait à l'époque à Chalon-sur-Saône, et à Chalon-sur-Saône, dans cette ville en France, en Bourgogne, il y a une petite île qu'on appelle l'île Saint-Laurent. C'est une petite île de bonheur pour moi, où j'ai eu une amie à moi qui s'appelle Caroline Develay, qui à l'époque, maman mourait. Ma mère, elle mourait, et donc elle avait un cancer et elle mourait. Caroline Develay, en fait, m'a hébergé chez elle. Elle avait un petit appartement en fait dans cette petite île, sur cette petite île, et l'hôpital était juste à côté, et donc ça me permettait d'aller voir maman et puis d'aller me reposer en fait chez Caroline qui m'avait offert un toit. Et donc c'est vrai que c'est très émouvant en fait pour moi même d'en parler encore aujourd'hui, parce que c'était j'étais exposé autant à une tristesse intense et autant à une générosité de la part de cette franco-italienne Caroline Develay, qui, j'espère, un jour écoutera cette émission. Voilà.
Alors, Au soleil de Jennifer. À tout de suite.
Ce qui ne me tue pas me rend fort. On pourrait en venir aux mains.
exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé, ce que l'on adore est réchauffé.
De retour avec Hosni Zawali. Hosni, par rapport au titre de l'émission, Réussir sa vie, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ?
Réussir sa vie, je pense que c'est intimement lié avec ce sentiment d'avoir trouvé un but à sa vie. Un petit peu comme... une espèce de direction générale dont on peut s'égarer de temps en temps forcément parce que les aléas de la vie font que on peut pas avoir notre chemin tout tracé droit comme ça vers un but bien particulier. Mais effectivement, réussir sa vie, pour moi, je pense que c'est d'avoir trouvé sa raison d'être qui va au-delà des intérêts personnels. Pour moi, en tout cas, réussir sa vie, c'est de griffer le temps. Cette expression vient pas de moi, elle vient du président François Mitterrand, qui dit griffer le temps, ça veut dire que j'ai pas envie de passer en fait sur cette planète comme un touriste. Venir, manger, jouir de tous les bienfaits de cette planète, de cette vie, et mourir. J'ai envie de griffer le temps, ça veut dire que j'ai envie de laisser ma trace. Et la meilleure manière de laisser sa trace, c'est d'investir dans les générations qui viennent. Faire en sorte que on laisse cette planète dans un meilleur état que lorsqu'on l'a trouvée. Et pour moi, réussir sa vie, ça vient de là. Alors ça peut être totalement autre chose. Hein. Pour ma mère, par exemple, réussir sa vie, c'était de faire en sorte que ses enfants, qui certains sont nés en France, d'autres sont nés en Afrique, eh bien réussissent dans une société occidentale. Et elle a réussi. Pour d'autres, ce sera autre chose. Mais c'est vrai que on ne peut pas en fait trouver un but si ce but est intimement lié à des intérêts personnels. Je veux devenir riche, je veux avoir une grande maison. C'est ridicule comme but dans la vie. Parce que on est en fait dans une cage à hamster, tout simplement. On en voudra toujours plus. C'est tout ça, c'est tout simplement là le problème. Et on sait forcément que ces buts-là ne sont pas liés à ce que l'on veut personnellement au fond de nous. Ces buts-là sont liés à une pression sociale. C'est la société qui nous dit que pour réussir, il vous faut une plus grande maison, il vous faut une piscine dans la maison, il vous faut une plus grande télé, il vous faut une plus grande maison, une plus grande voiture. C'est ridicule. Moi, quand je vois ça, ça m'attriste. Parce que je vois des gens courir et dépenser énormément d'énergie et aussi perdre des années cruciales dans leur vie pour, en fin de compte, se rendre compte 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, c'est pas qu'ils avaient la mauvaise réponse. C'est qu'ils avaient la bonne réponse à la mauvaise question.
C'est une bonne manière de décrire cette situation. Hosni, dis-moi, la Tunisie est un pays qui m'est très cher pour des raisons familiales. Et puis j'ai eu la chance aussi de faire une mission en Tunisie. La Tunisie a des voisins assez, comment dire, turbulents. Mais je pense que la Tunisie a un rôle important à jouer pour l'avenir. Alors, qu'est-ce que tu en penses ?
Écoute, je pense que toi, tu es aussi tunisien que moi, parce que c'est vrai que l'une des premières fois dont on s'est parlé, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait en fait des parents qui avaient tous les deux travaillé en Tunisie. Ouais. ou en tout cas vécu en Tunisie. Absolument. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore une petite maison, en fait, un monastir. Et à chaque fois que je me balade, en fait, sur le port de monastir, je me rappelle que c'est, je pense, ton père ou ton grand-père qui avait contribué à la construction de ce port.
Oui, mon père était l'ingénieur qui faisait partie de l'équipe. Et je vais essayer de retrouver la photo de la maison dans laquelle ils habitaient. Je sais que la photo est quelque part.
Monastir, c'est magnifique parce que j'adore cette ville. Pourquoi ? Parce que déjà, son nom, Monastir, hein, c'est dans l'est tunisien. Elle s'appelle Monastir parce qu'il y avait un monastère avant. Et ça montre tout simplement la présence en fait chrétienne au départ en Afrique du Nord. Et donc, on a gardé un petit peu ça. Et c'est vrai que c'est une des villes les plus ouvertes d'esprit de Tunisie. Moi, si on veut parler en fait du pays en général, écoute, on n'a pas de diamants, on n'a pas de pétrole, on a un petit peu de phosphate, oui, peut-être, mais on n'a pas de gaz naturel. Donc c'est très simple. Lorsque la Tunisie en fait a voulu rentrer un petit peu dans le 21e siècle, ils n'avaient pas vraiment d'autre choix que d'aller à l'encontre de tout ce que les voisins faisaient. L'Algérie, j'ai beaucoup de respect pour les Algériens parce que j'aime beaucoup en fait les Algériens, j'aime beaucoup leur culture. J'avoue que la une des raisons pour lesquelles la Tunisie survit aujourd'hui, c'est grâce aux Algériens. Ils nous soutiennent, c'est excellent. L'Algérie a beaucoup de pétrole, ils ont beaucoup de gaz. La Libye, ils ont beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz. La Tunisie, c'est très simple, il fallait investir absolument sur notre population. Alors une des premières choses que le président Bourguiba avait fait, je me rappelle, c'était, il avait dit, on peut pas jouer un match de foot ou de soccer, en ayant 50% des joueurs sur le banc de touche. Il fallait absolument faire rentrer les femmes dans la société, dans la force de travail. Et c'est un, voilà ce qu'il a fait. Alors aujourd'hui, tu as des usines entières qui sont complètement remplies de femmes qui travaillent, des femmes qui sont devenues indépendantes, des femmes comme ma mère qui ont pris leur destin en main, qui ne sont plus dépendantes de leur mari ou de leurs parents ou quoi que ce soit. Ça fait quand même une grande différence. Moi, je pense que le rôle de la Tunisie peut jouer un énorme rôle en Afrique. Je sais pas trop, en fait, pour le Moyen-Orient. On a eu une révolution. J'y étais pendant la révolution. J'y étais après la révolution. J'ai vu ce que c'était. J'ai vu, en fait, cette lueur dans les yeux d'hommes de 60 ans qui disaient « C'est incroyable, on n'aurait jamais cru ça. » Qui, du jour au lendemain, ont pu parler librement, ont pu créer des associations librement. Il y a des associations de gays qui ont été créées. Il y a des associations LGBT qui ont été créées. Plus personne ne peut arrêter ça en Tunisie aujourd'hui. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ça ne s'est pas terminé en bain de sang. Alors effectivement, économiquement, on est en train de souffrir. Parce que, effectivement, vu que c'est instable, eh bien, tu as tous les investissements directs à l'étranger qui viennent de France, d'Europe, d'Amérique, qui ont retiré leurs billes, qui se sont tout simplement retirés, ils ont eu trop peur. Je pense que si on a envie d'investir dans une meilleure Afrique, dans une meilleure société africaine, il est absolument impératif de soutenir la Tunisie parce que c'est un très très bon exemple. Si la Tunisie montre que une révolution pacifique sans les armes peut réussir, et si on les aide à réussir leur économie aujourd'hui, je suis sûr que c'est beaucoup d'autres pays africains qui vont suivre cet exemple. Et donc, voilà pourquoi il est super important de ne pas avoir peur et de soutenir cette révolution pacifique. Imagine ça. Écoute, Guy, c'est très simple. Imagine l'argent que l'on a complètement jeté en Syrie pour soutenir soit Bachar al-Assad ou soit les rebelles. Imagine si on prenait 10% de cet argent et on investissait en Tunisie dans la création de l'emploi, la création d'entreprises, l'éducation. Imagine l'effet que ça aurait eu sur notre société. Encore une fois, on s'est complètement gouré. On a investi peut-être des centaines de millions de dollars dans une guerre qui crée égale aujourd'hui le pire déplacement de population depuis la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on aurait pu investir là où ça a marché. Alors bien sûr, c'est un petit peu trop facile de parler comme ça, vu ce que Bachar al-Assad faisait. Mais encore une fois, on n'est pas en train d'investir dans les bonnes directions. La Tunisie est pratiquement en train de supplier l'Europe pour leur donner des subventions. Il faut absolument qu'on les aide. C'est un des seuls exemples qui a réussi. Et aujourd'hui, je suis sûr que plein d'autres pays africains vont suivre la donne.
Si on les en empêche pas.
Si on les en empêche pas. Si on se protège également, il faut absolument, effectivement, il faut qu'on se protège. Ouais.
Je pense que la Tunisie a un rôle très important de leadership Je pense qu'elle peut être une source d'inspiration pour le futur.
Bah écoute, la Banque africaine de développement était là-bas. Il y a eu pas mal de choses en fait qui ont été faites. On parlait à un moment du miracle tunisien. Effectivement, c'était tenu avec une main de fer dans un gant de velours. Aujourd'hui, la population tunisienne est assez éduquée pour se prendre en main. Mais effectivement, on a du mal dans les pays africains et beaucoup dans les pays arabes aussi à appliquer ce que l'on apprend.
De grandes questions, tout ça.
Oui, non, c'est vrai. Bon, que
je suis content qu'on évoque tout ça. C'est important. Alors, comme première chanson, prochaine chanson, pardon, tu as choisi Alaoui, l'Orchestre National de Barbès.
Ah oui. Oui, ça me rappelle beaucoup, en fait. J'ai assisté à plusieurs mariages en France, plusieurs mariages maghrébins en France. Et c'est vrai qu'il y a quand même une certaine intonation, une culture qui s'est créée. Un petit peu, tu sais, comme les Mexicains à Los Angeles, ils ont créé en fait leur culture Chicanos. Et les Maghrébins et les Africains de l'Ouest ont créé en fait une culture également en France qui est pas une culture purement française, mais qui n'est pas une culture purement maghrébine ou Afrique de l'Ouest. C'est vraiment une culture à eux maintenant. Et l'Orchestre National de Barbès, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un quartier à Paris, un quartier immigré, d'immigrants à Paris. Et donc écoutez, vous allez voir, c'est assez intéressant.
Merci pour ce choix, donc l'Orchestre National de Barbès. Donc on a parlé de, on est de retour avec Osni, on a parlé de l'avenir, on a parlé de la Tunisie, on a parlé de la jeunesse aussi. Alors d'après toi, quel est l'avenir de l'apprentissage?
Alors l'avenir de l'apprentissage, ça va être un, pour moi, je pense que ça va être un apprentissage beaucoup plus personnalisé. Un apprentissage qui sera beaucoup plus à l'écoute de ce que nous recherchons. C'est-à-dire que on a trop souvent... En fait, comment est-ce que les curriculums se créent? Les curriculums se créent en fait en fonction des besoins de la société, au niveau des besoins économiques. La raison pour laquelle on a créé en fait des cours de technologie à un moment, c'est parce qu'il nous fallait absolument beaucoup de personnes qui soient bons en électricité. Voilà, donc on crée en fait des curriculums, des programmes d'éducation dépendamment de ce dont on a besoin. Et donc ça va du haut et c'est transmis totalement vers le bas qui est l'élève, qui se voit malheureusement obligé en fait d'ingurgiter un petit peu tout ce savoir sans réellement comprendre où est-ce que ça va. Le problème, c'est que à partir du moment où on fait ça, on prend un risque. Et le risque, il est simple. Le temps que l'élève, enfin ça part du haut des programmes, des gens qui décident sur les programmes, que ça aille en fait dans les ministères, que ça aille dans les conseils scolaires, que ça aille dans les écoles, que ça aille dans les directions d'école, les enseignants et ensuite l'élève, il s'est passé peut-être 10 ans. Ça va vraiment pas vite. Et en 10 ans, eh bien les besoins de la société changent énormément. Aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment important en fait de renverser ce modèle pour partir d'une base qui est très simple, la base de qui est l'élève en face de moi. Alors c'est vrai que quand on a une classe de 25 enfants ou 25 jeunes, il est très difficile d'adapter son apprentissage de 25 manières différentes. Mais il y a quand même des modèles qui se suivent. On va voir que, 15% de mes élèves sont kinesthésiques. On va voir que 30% de mes élèves ont une intelligence mathématique plus développée. Eh bien là, on peut surfer sur cette vague. Il est beaucoup plus simple de surfer sur cette vague plutôt que d'essayer en fait de faire rentrer des connaissances qui n'ont ni queue ni tête dans la tête de nos futures générations. Qui en plus, on leur dit si tu n'arrives pas à apprendre tout ce que je te donne, à ingurgiter tout ça, ah ben c'est que t'es pas très bon, c'est que en fin de compte you are F, failed. Tu vois en fait Guy, cette idée en fait, même ce système de notation est complètement ridicule. Pour moi c'est complètement ridicule, c'est vrai. Aujourd'hui on le sait, et moi j'ai appris ça beaucoup en fait dans la Silicon Valley, j'ai appris ça beaucoup à Stanford University. On sait que l'échec n'est pas le contraire de la réussite. L'échec est la condition sine qua non de la réussite. Ce n'est qu'en échouant plusieurs fois que l'on arrive à changer, à modifier ce que l'on a fait précédemment pour arriver à quelque chose de presque parfait. Alors qu'aujourd'hui, on a des notes comme F, failed, échec. Et là, en fait, imagine que l'impact que ça a sur la confiance en soi. Imagine l'impact que ça a sur un élève qui, lui, est un petit génie en musique, mais qui a eu un F en mathématiques. Il perd totalement confiance en lui. Et le but de l'éducation, le but de l'apprentissage aujourd'hui, c'est d'amener les élèves à découvrir ce pourquoi ils sont des génies. Je vais le répéter. Le but de l'éducation, c'est d'amener les élèves à découvrir d'eux-mêmes ce pourquoi ils sont des génies. Si on arrive à faire ça, on va avoir fait un grand pas dans l'humanité.
On a parlé de révolution. J'ai l'impression que la révolution qu'on doit faire, c'est au niveau de l'apprentissage.
Effectivement, c'est au niveau de l'apprentissage où on doit faire cette révolution. Malheureusement, on n'y est pas prêt. Ça se joue à plein de niveaux. Niveau psychologique, les gens qui décident sont réfractaires, ils sont réticents au changement. Et c'est normal, on est tous réticents au changement. Certains y arrivent, je connais des gens qui travaillent dans les ministères d'éducation, sont très très bons, mais effectivement, on se heurte à cette muraille de réticence. Pourquoi la réticence? Parce que tout de suite, s'il y a changement, il y a remise en question de ma valeur dans l'organisation. remise en question de ma valeur dans le ministère, remise en question de ma valeur dans la société. Et effectivement, on verra toujours en fait ces gens qui disent non, on va pas changer, on va faire semblant de changer. On va donner l'illusion du changement, mais il n'y a pas vraiment de changement.
Les promesses électorales.
Oui, effectivement, les promesses électorales en fait en sont une très très bonne un très bon exemple. Effectivement. Le gros problème, enfin ça c'est un des problèmes, le problème psychologique. Le deuxième problème qui empêche cette révolution au niveau de l'éducation, c'est la peur de l'échec. On a une culture qui n'est pas basée sur l'échec, surtout en Amérique du Nord. On a une culture des winners, tu vois ce que je veux dire. On a une culture de gagnants. On n'échoue pas. On n'a pas le droit d'échouer. Ouais. Et ça, excuse-moi, je vais le dire, c'est une connerie.
Ouais.
Je suis désolé, c'est complètement fou.
De côté de la plaque, là.
Plus on échoue et plus on accroît nos chances de réussite.
Oui. J'aimerais m'adresser à Osni, le citoyen de la planète, parce que je trouve que c'est extraordinaire que tu aies vécu dans plusieurs pays, plusieurs cultures, et que tu as même été exposé à plusieurs religions, et ça t'a permis de déterminer comment tu allais vivre ta vie. Mais c'est au niveau des médias. Est-ce qu'il faut croire que tout ce que les médias nous racontent?
Faut-il croire tout ce que les médias nous racontent? Écoute, moi je pars d'un principe très simple. Si l'on croit à 100% une information qui nous est dite par qui que ce soit, quoi que ce soit, c'est qu'on a été manipulé. Si on a une certitude à 100%, c'est que l'on a été manipulé. Je pars à partir de voilà, ce principe-là. Aujourd'hui, les médias ont été créés... Moi je pense que les médias ont perdu de plus en plus leur âme. C'est-à-dire que si tu veux, en fait, comment est-ce que je vois la chose? Je vois le monde, en fait, un petit peu comme ça. Je vois la sphère politique, la sphère marchande et la sphère médiatique. La raison pour laquelle la sphère médiatique a été créée, c'est pour protéger la population des abus que la sphère politique et la sphère commerciale ou la sphère marchande pouvaient avoir sur la population. La sphère marchande, si elle commet des abus, eh bien, la sphère médiatique était là pour dénoncer ces abus. Et donc, ça les restreint à créer des abus. La sphère politique, si elle commet des abus, la sphère médiatique est là pour dénoncer ces abus. Cependant, aujourd'hui, on l'a vu, c'est que la sphère politique ou la sphère marchande a acheté la sphère médiatique. Je vais donner des chiffres très simples. Je connais pas exactement pour le Canada, mais voici pour la France. 80% des médias écrits en France appartiennent à Dassault et Lagardère. Dassault et Lagardère sont deux grosses méga-organisations de vente d'armes. Qu'est-ce que la vente d'armes a à faire avec les médias? Ils ont acheté 80% des médias écrits. C'est la sonnette d'alarme. Il devrait y avoir quelque chose dans la Constitution qui empêche ça. Depuis quand des vendeurs d'armes, des constructeurs de tanks, d'avions, de bombes pouvaient mettre la main sur la sphère médiatique qui est supposée être là pour nous défendre et pour dénoncer des abus. Alors, à part, en fait, des radios indépendantes, des radios comme Choc FM, je vois pas où est-ce qu'on va. Mais c'est clair et net. C'est fou. Par exemple, comment est-ce qu'on a fait pour attaquer l'Irak malgré le fait qu'on n'avait pas, en fait, de WMD, d'armes de destruction massive? On le savait. Il n'y avait aucun Irakien dans le World Trade Center. Il n'y en avait aucun. Eh bien, les médias, on leur a demandé, hein, les vendeurs d'armes leur ont demandé, de diaboliser l'ennemi. Excuse-moi, on leur a même pas demandé ça au départ. On leur a demandé d'identifier l'ennemi. On leur a dit, l'ennemi est l'Irakien. Il y a quelques voix qui se sont élevées, qui ont dit, mais attendez, les Irakiens n'ont rien à voir dans le 11 septembre. Les Irakiens n'ont rien à voir. Tu fais ce qu'on te dit, sinon t'es viré. La sphère marchande a perdu son âme. Et malheureusement, on en est arrivé aujourd'hui, en fait, à envahir tout un pays, créer, en fait, une énorme frustration de la population musulmane. On parle quand même, en fait, d'une population qui fait plus d'1 milliard de personnes. On est à l'aube d'une troisième guerre mondiale. C'est complètement dramatique.
Réussir sa vie, on a du boulot, hein.
Oui, c'est vrai, on a du boulot. Cependant, je vais te raconter une petite histoire. Ce sera peut-être le mot de la fin, je sais pas. Ce sera à toi de décider. Mais écoute, tu sais que j'ai été élevé musulman et je suis très heureux, en fait, d'avoir été élevé musulman. À un moment, en fait, je faisais mes études à Toulon. Et à Toulon, j'avais un prof qui m'a dit, écoute, tu sais, il y a une petite île au large de Toulon, dans la Méditerranée, où il y a un monastère. J'ai fait un monastère, ok. Il m'a dit, tu devrais y aller pour réfléchir. Parce qu'il avait vu que j'étais un petit peu tourmenté par des histoires, par des questions comme, pourquoi Israël, Palestine, pourquoi les guerres, pourquoi si, pourquoi ça. Alors du coup, je prends un tout petit bateau, puis je m'en vais sur ce monastère. C'est un monastère, je m'en vais sur cette île. Sur cette île, il y a une seule maison, en tout cas, une seule bâtisse. C'est un monastère. Et ce monastère, il y a à peu près 30 moines qui vivent à l'intérieur. Je les ai pas tous vus, j'en ai vu qu'un. À un moment ou un autre, je rentre dans le monastère et je me dirige dans une petite pièce. Et là, imagine, en fait, il y a une table, deux chaises, et il y a en fait un rayon de soleil qui rentre de la fenêtre. Et il y a un moine qui arrive. Et ce moine avait un accent italien. Il me dit bonjour mon fils. Je lui dis bonjour mon père. Il me dit assis-toi. Je m'assois. Il me dit qu'est-ce qui te préoccupe. Puis là je commence à déverser un petit peu ce que j'ai sur le cœur. Je lui fais écoutez mon père, je sais pas comment vous dire, en fait je suis vraiment désespéré par rapport à toute la cruauté du monde. Je suis accablé en fait par la barbarie de ce monde, l'Israël, Palestine, ces enfants qui meurent. Et là il me regarde comme ça dans les yeux et puis il me dit, vous savez mon fils, un arbre qui tombe fera toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et il se lève et il part. Mais je fais, mais il va où? Et je suis là, mais tu vas où? Tu vas me laisser avec ça? Attends, je suis pas assez intelligent pour comprendre ça. Et il part. Et là, en fait, je erre comme ça pendant 2-3 jours autour de ce monastère, je campe. Il avait totalement raison. Un arbre qui tombe fera toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. On voit beaucoup de guerres, on voit beaucoup d'enfants syriens qui meurent, on voit beaucoup de drames, mais on a vraiment du mal à voir toute la générosité de la planète, toutes ces belles choses qui se font, tous ces juifs qui sont en train d'aider ces musulmans, tous ces musulmans qui sont en train d'aider ces juifs, tous ces chrétiens qui aident, peu importe la couleur de la peau. Eh bien moi je préfère me focaliser sur cette forêt qui pousse plutôt que sur cet arbre qui tombe.
Merci Osni pour ces paroles de sagesse. Tu as choisi comme prochaine chanson Black M, à l'ouest.
Exactement. À l'ouest, c'est encore une fois en fait, c'est une expression, être à l'ouest, en tout cas en fait dans la France dans laquelle j'ai vécu, quand on dit « Oh t'es à l'ouest », ça veut dire que t'as rien compris, t'es complètement perdu dans ta vie. Et ça m'a fait vraiment rire parce que c'est ce jeune groupe en fait qui chante. Eux viennent d'Afrique de l'Ouest. Et donc, ils te disent « Je suis à l'Ouest », faisant référence en fait à leurs origines d'Afrique de l'Ouest, mais faisant référence également à leur situation dans les banlieues de France où ils sont complètement perdus. Et je trouvais ça assez intéressant. C'est une belle chanson.
Merci. À l'Ouest.
Le matin, tu écoutes tes parents. Le jour, tes professeurs. Le soir, tes amis. Choc, tout le temps.
La musique d'abord. 105.1 Choc FM.
De retour avec Osni Zawali. Alors j'ai toujours peur de décorcher les noms, donc j'articule.
Non, tu le dis très bien, c'est exactement ça.
C'est gentil, merci. Je termine toujours l'émission avec le questionnaire de Bernard Pivot. Bernard Pivot, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Votre mot préféré?
Marhaba, qui veut dire bienvenue, welcome, en arabe.
En arabe. C'est sympathique. Le mot que vous détestez?
Bougnoul. Bougnoul, je peux pas piffrer. J'ai vécu en fait en Bourgogne et j'essayais pourtant de sortir de mon quartier pour aller parler un petit peu aux viticulteurs, qui est une grande activité en Bourgogne. Et certains m'appelaient le Bourguignoul. Un mix entre le Bourgogne et puis Bougnoul, c'était un petit peu fatigant.
Ouais. Votre drogue favorite?
Le rire, mais j'en ai jamais assez.
Le son, le bruit que vous aimez?
Ah, le silence des synagogues, des églises et des mosquées. Pas forcément dans ce sens-là, mais c'est vrai que le silence dans les synagogues, dans les églises et dans les mosquées, c'est très bien parce que j'ai toujours peur de ce qu'ils vont dire. J'ai toujours peur de ce qui va être dit. C'est pour ça aussi que j'aime bien le silence. Le silence, en fait, dans ces endroits-là, sont parfois beaucoup plus révélateurs que l'imam ou le rabbin a à dire.
J'interromps le questionnaire un petit peu là pour élaborer parce que quand tu es arrivé ici au studio, la première chose que tu as dit, c'est « j'aime l'énergie ici ». Et pour moi, quelqu'un qui est capable de sentir ça, c'est extraordinaire.
Oui.
Le son, le bruit que vous détestez.
Oh, le bruit des voitures. Écoute, j'ai pas encore assez d'argent, mais il faut absolument que j'investisse dans une voiture électrique. J'en peux plus, moi, de ce bruit des voitures. C'est horrible, ça m'exaspère.
Votre juron, gros mot ou blasphème favori?
Puta madre!
Un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque?
Ah oui, alors, sans aucun doute, Ai Weiwei. Ai Weiwei, pour ceux qui connaissent pas, c'est un grand, grand, grand artiste chinois. Regardez un petit peu ce qu'il fait, allez voir un petit peu qui est Ai Weiwei. C'est un artiste qui vit son art, mais qui est également très, très engagé politiquement. Alors, il est engagé politiquement contre le régime pseudo-communiste de la Chine, un régime qui est assez exploiteur. Regardez ce qu'il fait. Je vous avoue que ce gars-là a des cojones en béton.
Oui, il devrait pas seulement avoir son portrait, mais aussi il devrait lui confier l'illustration du billet lui-même, je pense.
Absolument, absolument. C'est un artiste magnifique.
Ça augmenterait la valeur du dollar canadien.
Mais c'est vrai. Non, non, totalement.
ça deviendrait un objet de collection.
Ouais.
Le métier que vous n'auriez pas aimé faire.
Gardien de camp de concentration. Ça, j'aurais pas vraiment aimé ça.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné.
Oula, là, c'est une question un petit peu trop difficile, vu ce qu'on a fait des plantes, des arbres et des animaux dans notre planète. Je vous avoue que j'essaie de réfléchir à quelle plante, quel arbre ou quel animal j'aurais aimé être réincarné. Et je ne vois pas d'autre destinée que un carnage. Hein, si je suis une vache, c'est bon, c'est fini. Si je suis un aigle, je suis en voie d'extinction. Si je suis un arbre, bah, je vais être découpé pour être... voilà. Et encore, au Canada, on n'est pas mauvais ici, mais dans d'autres pays, c'est une catastrophe. On juge de l'humanité d'un peuple grâce à sa manière dont il traite les animaux et les plantes.
Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire ?
Zawali, toujours en retard apparemment.
Osni, merci beaucoup, beaucoup. Merci chaleureusement. D'abord, j'apprécie d'être ton ami, mais aussi que tu aies accepté notre invitation aujourd'hui. Tu as choisi comme pour dernière chanson pour finir cette émission Magic System. Tu as bougé.
Oui, exactement. J'ai choisi ça parce que ce n'est que en France où j'aurais vraiment pu être exposé à la culture d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, je travaille un petit peu en Afrique de l'Ouest. Je travaille au Ghana. On a un petit orphelinat là-bas que l'on aide. Mais cette culture est une culture fantastique que j'aurais jamais pu découvrir si j'étais né en Tunisie ou si j'étais né ailleurs. Il y a encore beaucoup trop de barrières. Et c'est vrai que être né avec des Sénégalais, des Congolais, être né avec des Béninois, des Maliens, c'est extraordinaire parce qu'ils ont une richesse qui est à chaque fois que j'y pense, ça me fait sourire, mais ça me fait aussi sourire dans le cœur.
Merci Osni. À bientôt.
Merci. Bye bye.
Salut. Bougez.